Il fait chaud aujourd'hui. Alors, pour ce matin, on va avoir un message assez rafraîchissant. Du moins, j'espère. J'ai choisi un thème tout en douceur et en légèreté. Juste avant d'aller plus loin pour voir votre réaction, je vais vous dire le thème en question. On va parler de la rencontre amoureuse. Dès qu'on parle de ça, tout le monde a le sourire. On a l'impression de lire sur vos lèvres, oh, c'est mignon. Rassurez-vous, il n'y aura pas d'image de petit chat ou de cœur ou de choses comme ça, quand même. Alors pourquoi ce thème? Quand même, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de discussions sur le sujet avec pas mal de personnes différentes, de tous les âges. Je ne sais pas si c'est l'effet du printemps, mais en tout cas, le fait est là. Alors je me suis dit, la Bible en parle, profitons-en. Et puis c'est un thème qui intéresse finalement tout le monde. Quand on est jeune, on pense un peu qu'à ça. Quand on est célibataire, on l'espère parfois, fortement. Quand on est en couple, on se le rappelle avec plaisir et émotion. Quand on est parent, on le redoute pour nos enfants. Quand on prend de l'âge, on en a peut-être une compréhension plus douce, plus reculée. Et puis ça peut arriver justement à n'importe quel âge. Donc ça, c'est un thème qui intéresse tout le monde. Et puis j'avoue aussi que c'est un sujet sur lequel j'ai un petit coup de gueule à passer. Du coup, moi ça me fait plaisir aussi. Ça viendra pour la fin. Alors pour étudier ce thème, la rencontre amoureuse, nous allons regarder ensemble un texte biblique qui nous parle exclusivement de relations amoureuses, de vie de couple. Et nous allons donc couvrir nos Bibles. Dans quel livre? Le Cantique des Cantiques. Et donc, nous allons lire dans le Cantique des Cantiques, à partir du chapitre 2, verset 8, jusqu'au chapitre 3, verset 5. J'entends mon bien-aimé. Oui, le voici, il vient, sautant sur les montagnes et bondissant sur les collines. Mon bien-aimé ressemble à la gazelle ou à un jeune cerf. Le voici, il est là, derrière nos murs, guettant par les fenêtres et lançant des regards à travers les treillis. Mon bien-aimé me parle et il me dit « Lève-toi, mon ami, viens donc, ma belle, car l'hiver est passé et les pluies ont cessé. Leur saison est finie. On voit des fleurs éclore à travers le pays et le temps de chanter est revenu. La voix des tourterelles retentit dans nos champs. Sur les figuiers, les premiers fruits mûrissent. La vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, mon ami, et viens, oui, viens, ma belle. Ma colombe, nichée aux fentes des rochers, cachée au plus secret des parois escarpées, fais-moi voir ton visage et entendre ta voix, car ta voix est bien douce et ton visage est beau. Prenez-nous les renards, oui, les petits renards qui ravagent nos vignes quand elles sont en fleurs. Mon bien-aimé, il est à moi, et moi, je suis à lui. Lui qui paie son troupeau sur les prés pleins de lys. Et quand viendra la brise à la tombée du jour, et quand s'estomperont les ombres, reviens, ô toi, mon bien-aimé, pareil à la gazelle ou à un jeune faon sur les monts escarpés. Sur mon lit, au long de la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Je me suis dit alors, il faut que je me lève. Je ferai le tour de la ville par les rues et les places. Je chercherai partout celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché. Mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai rencontré les gardes qui faisaient le tour de la ville. Je leur ai demandé, « Celui que mon cœur aime, ne l'avez-vous pas vu ?» Les ayant dépassés, peu après, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi bien fort et ne l'ai lâché qu'après l'avoir conduit au logis de ma mère dans la chambre de celle qui m'a donné le jour. « Oh, fille de Jérusalem !» Je vous en conjure, par les gazelles ou par les biches de la campagne, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. C'est médium. N'empêche, c'est beau. J'ai jamais autant vu tout le monde sourire après une lecture biblique. Alors, le Cantique des Cantiques est un livre un peu particulier dans la Bible. C'est un livre tout en poésie. Vous l'aurez remarqué, et qui commence en fait par ces quelques mots, le plus beau des chants, le cantique de tous les cantiques, le plus beau des chants. C'est un poème qui nous raconte ce qu'il y a de plus beau dans le monde, la rencontre entre deux personnes qui se cherchent, en viennent à s'aimer, puis à se marier dans la suite du texte et à s'épanouir dans leur vie ensemble, dans leur couple et jusque dans leur sexualité. Et le passage que nous avons lu se trouve dans le début de ce livre et nous raconte la période justement de la rencontre amoureuse. J'aimerais tout d'abord souligner une première chose. C'est que je trouve merveilleux que la Bible consacre un livre entier à ce sujet. Les relations sentimentales sont quand même une des préoccupations principales de l'être humain. Elles peuvent nous apporter le plus grand bonheur, les joies les plus durables, mais également, malheureusement, la plus grande souffrance ou parfois de terribles déceptions. Et la Bible nous montre dans ce livre que Dieu reconnaît cet aspect de nos vies comme important. Mais pas seulement. Ce poème, qui se veut, comme il le dit, le plus beau des chants, nous montre que pour Dieu, les sentiments humains dégagent une beauté toute particulière, quasi indescriptible. Quasi indescriptible, on le voit d'ailleurs dans ce livre, avec ce jeune homme et cette jeune femme qui tentent de décrire leurs sentiments, mais qui ont du mal. C'est trop intense. Et les images qu'ils utilisent, ils en utilisent plein, du coup, elles sont parfois un peu maladroites, limite comiques. Moi, j'ai jamais dit à ma femme, chérie, tes yeux ressemblent à des colombes. Je lui ai jamais dit, c'est à un autre moment dans ce livre, je te trouve pareil aux chevaux d'attelage du pharaon. Ma femme, elle, m'a jamais dit que j'étais comme un pommier parmi les arbres de la forêt, ni que je ressemble à la gazelle ou aux jeunes cerfs. Bon. Les images semblent maladroites, presque ridicules. Mais cette maladresse est aussi à l'image de toute l'intensité et la fébrilité des sentiments humains lors d'une rencontre amoureuse. Et ça participe à la beauté de ce chant, à la beauté de ce texte. Dans ce livre, Dieu nous montre qu'il regarde tout ça avec bienveillance. Nous trouvons ça beau, et bien Dieu également. Ce texte nous parle donc d'amour. Mais avant l'amour vient la rencontre. Cette jeune femme appelle mon bien-aimé, et lui appelle cette jeune femme ma bien-aimée. Mais avant d'en arriver là, leur relation a déjà évolué. On ne croise pas un ou une inconnue dans la rue pour l'aborder en disant « mon ou ma bien-aimée ». Non, ce texte nous présente deux personnes qui se connaissent déjà très bien, qui parlent l'un de l'autre, qui se décrivent, donc qui se sont observés longuement. Cette connaissance l'un de l'autre a fait place en chacun à des sentiments qui maintenant prennent de l'ampleur jusqu'à remplir leur cœur et leurs pensées. L'amour, ça vient jamais tout seul, ça vient avant tout d'une rencontre. Aimer notre conjoint, comme aussi d'un amour différent, aimer un ami, aimer notre prochain, aimer notre Dieu, ces amours, vous le comprenez, sont différents les uns des autres, même si le mot est le même. Mais le point commun, c'est que cet amour apparaît et se développe dans la rencontre. C'est également un des buts de la venue du Christ sur terre. Il nous dit qu'il est venu nous montrer Dieu, nous le faire connaître, nous le faire rencontrer. Parce que Dieu nous aime comme un père, mais si nous ne le rencontrons pas, nous ne pouvons pas prendre conscience de cet amour, ni l'aimer en retour. Alors Dieu est venu à notre rencontre en Jésus-Christ pour nous montrer son amour, pour se révéler à nous, pour que nous puissions le connaître, le rencontrer et enfin pouvoir l'aimer en retour, comme le Père qu'il est pour nous. L'amour commence et se développe dans la relation. Mais cette relation, lorsque dans la rencontre, n'a rien d'amoureuse. Elle peut être toute simple, banale, voire même passer inaperçue. Dans une relation, on peut passer de l'indifférence ou de l'amitié toute simple, ou même d'une relation pas très amicale, un peu tendue, à des sentiments bien plus beaux et plus profonds par la suite. C'est aussi ce que représente cette image fameuse du printemps, saison de l'amour, le passage de la tristesse et de la pluie à la joie et la beauté. Et dans notre texte, le jeune homme utilise également cette image du printemps pour décrire ce qui se passe dans son cœur. Je vous relis ce passage. « Mon bien-aimé me parle et il me dit « Lève-toi, mon ami, viens donc, ma belle, car l'hiver est passé et les pluies ont cessé. Leur saison est finie. On voit des fleurs éclore à travers le pays et le temps de chanter est revenu. La voix des tourterelles retentit dans nos champs. Sur les figuiers, les premiers fruits mûrissent. La vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, mon ami, et viens, oui, viens, ma belle. » Peut-être qu'il ne parle que de ce qu'il voit dans la nature, mais comme c'est un poème d'amour, on peut également comprendre qu'il est en train de parler d'eux, de leur relation. Il y a eu entre eux peut-être une saison d'hiver et de pluie, bien loin des sentiments amoureux ou de la tendresse. Mais leur relation évolue. Elle change et elle fait place maintenant dans ce poème à une saison de fleurs, de fruits et d'abondance. Et on peut même voir autre chose dans ce texte, une évolution encore plus complexe de leur relation. En effet, le jeune homme nous dit « On voit des fleurs éclore à travers le pays et le temps de chanter est revenu. » S'il est effectivement en train de parler ici en image de leur relation, il y a pu déjà y avoir entre eux une saison de fleurs et de chants, des sentiments qui naissent, qui s'épanouissent. Mais cette saison a pu laisser la place à un hiver de pluie, ces jeunes gens s'éloignant l'un de l'autre. Et ici, le jeune homme peut alors dire que le temps de chanter est revenu, parce qu'à nouveau, leurs sentiments se rapprochent, plus fortement qu'avant, et cette fois-ci, ils en viennent à vouloir proclamer leur amour. Une rencontre, quelle qu'elle soit, peut évoluer pour amener à des sentiments bien plus forts, bien plus complexes. Mais il y a une particularité que seule possède la rencontre amoureuse. C'est ce jeu de cache-cache que décrit notre texte. Voici ce que dit la jeune fille à son bien-aimé. « Mon bien-aimé ressemble à la gazelle ou au jeune cerf. Le voici, il est là, derrière notre mur, guettant par les fenêtres et lançant des regards à travers les treillis. » Le bien-aimé se cache. Il observe de loin, il se rapproche d'elle, mais il reste toujours distant, derrière un mur, derrière une fenêtre. Alors non, c'est pas un voyeur, ou un stalker, ou qui harcèlerait la jeune fille, c'est de la poésie. Non, mais dans leur relation, dans ces sentiments qui apparaissent, il reste quand même distant, incertain. Il veut être près d'elle, mais il n'ose pas. Et elle, eh bien c'est pareil. Elle l'appelle son bien-aimé, donc elle reconnaît ses sentiments pour lui, mais voici ce que lui dit au sujet de la jeune fille. « Ma colombe nichée aux fentes des rochers, cachée au plus secret des parois escarpées, fais-moi voir ton visage et entendre ta voix, car ta voix est bien douce et ton visage est beau. » Vous voyez, elle aussi semble se cacher de lui. Elle reste distante lorsque lui l'appelle, lorsqu'il veut la voir ou l'entendre. Elle reste cachée, elle ne s'approche pas trop, et pourtant, elle l'aime. Et quand c'est elle qui veut à son tour se rapprocher de lui, cette fois c'est le jeu inverse, c'est lui qui s'éloigne à nouveau, qui se cache, et elle ne le trouve pas. Et voici ce que nous dit la jeune fille. « j'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, mais ne l'ai pas trouvé. » Alors elle persévère, elle panique un peu, elle le cherche plus encore, et elle nous dit « je me suis dit alors, il faut que je me lève. Je ferai le tour de la ville par les rues et les places. Je chercherai partout celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai pas trouvé. » Et enfin, après ce jeu qui prend du temps, qui leur demande patience, effort, persévérance, ils finissent par se rencontrer dans leurs sentiments et les découvrir, en fait, mutuels. Et là, la jeune femme peut enfin nous dire « peu après, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi bien fort et ne l'ai plus lâché. » La rencontre de leurs sentiments ne s'est pas faite comme ça. Il a fallu du temps, de la patience et de la recherche de la part de chacun. Il a surtout fallu ce jeu, ce petit jeu où l'un s'approche quand l'autre s'éloigne et inversement. Ce jeu que notre texte nous décrit ici comme nécessaire à la rencontre mutuelle de leurs sentiments. Ce jeu où l'on explore en fait nous-mêmes nos propres sentiments pour l'autre et où l'autre teste aussi les sentiments que nous pouvons éprouver pour lui ou elle. Et là vient le fameux moment dont j'ai parlé au tout début de mon petit coup de gueule du dimanche matin. Dans beaucoup d'églises ou de familles chrétiennes, j'ai vu et j'ai même vécu quelque chose que je trouve réellement dramatique en fait. C'est que bien souvent, pas par méchanceté, hein, mais par crainte, on en vient à empêcher ce jeu. Je m'explique. Dans toute relation naissante, et notre texte nous le décrit superbement, il arrive toujours un moment où l'ambiguïté est nécessaire. On ne sait pas trop ce qu'on ressent, encore moins ce que l'autre tire, et on a besoin de ce petit jeu, de cette recherche l'un de l'autre. On a besoin de cette ambiguïté pour que nos sentiments prennent de l'assurance, grandissent, et pour tester ceux de l'autre, avant de trouver le courage de se lancer. Une relation qui commence ou qui peut commencer a besoin d'ambiguïté. Mais dans l'Église ou les familles chrétiennes, bien souvent, l'ambiguïté fait peur. On a peur de que cette ambiguïté puisse conduire nos enfants ou nos jeunes à aller trop vite. On a peur de ce que peuvent en penser les autres. Parce que ça se voit, il n'y a que les deux amoureux qui ont l'impression d'être discrets. Tout le monde le voit ce petit jeu. Et on a peur de ce que les autres vont en dire parfois. On a peur aussi de ce qui se dira si jamais l'ambiguïté ne laisse place à rien d'autre par la suite. Si rien ne vient, si la relation s'arrête là, redevient amicale, on a peur de ce que les gens en diront. Et c'est tout à fait possible que ce jeu mène simplement à de l'amitié par la suite. On a peur de l'ambiguïté. Alors qu'est-ce qu'on fait bien souvent ? On va voir le gars ou la fille en question, ou même pire, parfois on prend les deux à part et on leur demande « C'est quoi tes intentions envers lui ou envers elle ?» Il faut que vous clarifiez les choses. Hein. Arrêtez de jouer l'un avec l'autre. Arrêtez de jouer. Et là, on brise tout. On tue tout, tout ce qui aurait pu découler de ce jeu, de ce beau jeu. De cette recherche, de cette ambiguïté nécessaire, on le brise avant que ce soit complet. Il n'y a rien de pire au niveau relationnel qu'une famille ou qu'une église qui vient mettre son nez dans la rencontre qui se crée entre deux personnes. J'en sais quelque chose, j'ai épousé une fille de pasteur. Alors je peux vous dire que les relous qui sont venus mettre leur gros pif dans notre histoire, il y en a eu. Et un paquet. Ça l'a pas tué l'histoire, heureusement. Mais à des moments, il y a des baffes qui se sont perdues. Et pourtant, regardez ce que nous raconte notre texte. Relisez, redécouvrez ce poème, ce cantique des cantiques. Rappelez-vous ces moments. Rappelez-vous ces instants. Cette ambiguïté, peut-être, que vous avez vécu un jour. Et voyez comment même la Bible nous la présente comme belle, nous présente ces moments, ce jeu comme beau, nécessaire. Il ne faut pas en avoir peur, il faut pouvoir s'en réjouir pour ceux qui le vivent. Il ne faut pas non plus nous désintéresser des rencontres de nos enfants ou de nos jeunes, par exemple, parce que même là, les gens ont besoin d'accompagnement, ont besoin d'enseignement, ont besoin de conseils parfois. Mais il ne faut pas briser cette ambiguïté avant qu'elle n'ait pu faire son œuvre, avant qu'elle n'ait permis soit de faire comprendre aux personnes en question que leur relation n'est finalement qu'une belle amitié et pas plus, soit qu'ils se découvrent l'un chez l'autre et en eux-mêmes des sentiments plus profonds et partagés. Et notre texte, ce fameux « plus beau des chants », ce cantique des cantiques, possède d'ailleurs un refrain dans lequel il nous supplie de ne pas briser ce jeu, de ne pas y mettre fin avant que ce soit le bon moment. Et voici ce refrain que nous trouvons au début, au milieu et à la fin du Cantique des Cantiques. N'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Ne le précipitez pas, ne demandez pas de le clarifier, de le réveiller avant que ce soit le bon moment. Il est normal et compréhensible d'avoir peur, de craindre l'ambiguïté et l'incertitude, parce qu'on ne sait pas où ça va. Mais au contraire, ce texte nous appelle à apprécier ces instants, à les vivre pleinement et à ne pas y mettre ni frein ni terme tant que le moment n'est pas venu. N'ayons pas peur de ce que Dieu et sa parole nous présentent comme beau et bon. Amen.